Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, quelle est la bonne distance pour comprendre le monde ? Il n'y aura pas de minute de silence dans les stades de l'Euro 2016 pour rendre hommage aux victimes de la fusillade d'Orlando aux États-Unis. Ainsi en a décidé l'UEFA, provoquant l'indignation sur les réseaux sociaux. La plus haute instance dirigeante du football européen y est accusée de tous les maux, coupable d'indifférence, voire de mépris, en ne participant pas au grand mouvement de compassion qui accompagne désormais certaines tragédies. Pourtant, et pour une fois, c'est bien l'UEFA qui semble avoir été la plus lucide et la moins exaltée dans cette affaire, en justifiant son refus de cette manière. Il y a malheureusement des événements tragiques qui se déroulent presque quotidiennement partout dans le monde. Il serait tout simplement irréaliste de rendre hommage à toutes les victimes. Alors cette polémique, même si le mot ne veut plus dire grand-chose, renvoie à un constat ancien du point de vue qui est le nôtre. Tous les drames ne pèsent pas la même chose, tous les événements n'ont pas les mêmes conséquences. Le problème, c'est que c'est à travers ce même déséquilibre que se pensent encore aujourd'hui les relations internationales ou que s'écrit encore très majoritairement l'histoire, sans tenir compte d'une réalité, celle d'un monde globalisé, où tout ne se vaut pas, certes, mais où les questions de proximité par rapport aux événements ne peuvent plus être les mêmes que par le passé. Alors, quelle est la bonne distance pour comprendre le monde ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter ce soir, un historien et un politologue qui réfléchissent, qui écrivent autour de ces questions. L'historien, c'est vous, Sanjay Subramaniam. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur invité au Collège de France parmi les nombreuses fonctions ou titres que vous avez, mais vous enseignez également notamment aux États-Unis. Vous êtes présenté en général comme le chef de file de l'histoire globale ou l'histoire connectée. Je ne sais pas quel est le terme que vous préférez entre les deux. Les deux vous conviennent ?
Plutôt l'histoire connectée, mais peu importe.
Alors, oui. Plutôt l'histoire connectée. Vous avez publié, votre dernier ouvrage aux éditions Alma, L'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée, justement, des cours d'Europe et d'Asie, 1500-1750. Et pour discuter avec vous, le politologue, c'est Bertrand Badie. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste en relations internationales. Est paru à La Découverte tout récemment. Nous ne sommes plus seuls au monde. Un autre regard sur l'ordre international. Et je précise que nous avons fait un échange d'ouvrages, donc vous avez eu l'occasion de vous lire l'un et l'autre. Alors je voudrais commencer avant peut-être de se demander à quel endroit finalement il faut se placer pour essayer d'avoir une compréhension, si ce n'est la plus parfaite, mais enfin on va dire la plus exacte du monde, faire peut-être un petit diagnostic, c'est toujours un petit peu compliqué, mais sur l'état de ce monde. Et moi j'avais l'impression, Sanjay Subramaniam, que malgré ce monde globalisé, ce monde où tout le monde a la possibilité de rencontrer tout le monde et où les contacts sont fréquents, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi un monde qui est de plus en plus violent, avec de très nombreux conflits à la surface de la planète. Alors, est-ce que l'histoire, peut-être, nous enseigne-t-elle que plus il y a de contacts, finalement, et plus il y a de frictions, et que ces frictions peuvent être particulièrement violentes ?
Non, je ne pense pas que c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas comme si plus il y a de contacts, plus il y a des frictions. Je pense que plus il y a de contacts, plus il y a des changements dans les types de frictions. Ça, c'est un autre type de problème. C'est-à-dire, il y a, disons, des types de frictions qui sont basés sur l'ignorance et il y a des frictions qui se font dans la connaissance. Donc, deux sortes de frictions différentes. Par exemple, il y a des frictions qui se produisent quand il y a une espèce de première rencontre. Pensons, par exemple, aux Européens arrivant en Amérique, qui ont provoqué des violences assez considérables, mais pas, c'est pas comme si au 19e siècle, trois siècles après l'arrivée des Européens en Amérique, la violence a cessé. Non, et il y avait un autre type de violence, c'était la violence, par exemple, de l'expansion des États-Unis vers le Pacifique. Donc, moi, je dirais pas que il y a plus ou moins de violence en fonction des contacts, mais il y a un changement dans les types et dans ce que ça veut dire finalement la violence.
Vous répondriez de la même manière, Bertrand Badie ?
Oui, alors d'abord il faut être prudent parce qu'il n'est pas sûr, j'allais dire statistiquement, que le monde soit plus violent aujourd'hui qu'hier. Vous savez, la nécrométrie est une science très inexacte et c'est très difficile. Il y a des gens qui vous disent, mais le monde est beaucoup plus pacifique aujourd'hui qu'hier, et d'autres qui vous disent le contraire. Moi, je ne trancherai pas, et je pense que finalement, le problème n'est pas là. Pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, si vous voulez, je dirais qu'il s'est produit quelque chose autour de la Renaissance occidentale qui a été l'invention de l'universel. Et du coup, de la culture de la hiérarchie. C'est-à-dire, nous avons inventé l'universel, notre vocation est de l'imposer au monde entier. Et du coup, cette histoire occidentale, brillante, pétillante d'invention, a été dans l'incapacité de définir l'altérité. C'est-à-dire, l'autre, c'était nécessairement le moins évolué, le moins développé. C'était quelque part l'inférieur. On le disait carrément à un moment, après on n'osait plus trop le dire. Mais c'était comme ça. Quand on a découvert la Chine, on a balancé de l'opium sur la Chine au 19e siècle, ce qu'on n'aurait pas fait entre Européens, par exemple, et beaucoup d'autres exemples de cette nature. À partir du moment où notre sens de l'altérité a été bloqué, notre rapport au monde, comme vous le disiez fort bien il y a un instant, est fait d'un mélange d'ignorance de l'autre et d'incapacité de construire justement ce dans quoi nous sommes actuellement, la mondialité. C'est-à-dire de travailler avec l'autre, de lui reconnaître le droit d'être à titre égal le créateur de cette mondialité. Et d'où ces tensions, d'où ces rétractions identitaires. Parce que, d'une part, vous avez une identité qui s'affirme avec le fanion de l'universel, et puis vous avez les autres qui se sentent agressés et qui veulent réagir, et souvent de manière extrêmement violente, comme on le voit aujourd'hui.
Donc il y aurait quoi, une forme de péché originel qui serait un péché fait par les Occidentaux, Sanjay Subramaniam ?
Peut-être, mais en même temps, je pense que, quand je pense 15e siècle, je ne pense pas le 15e siècle à partir d'un seul centre. Vous voyez, donc, bien sûr, l'Europe existe, l'Europe occidentale existe, et c'est l'époque de la Renaissance pour les Européens, mais en fait, c'est un monde à l'époque, au 15e siècle, où moi, je ne pense pas en termes, je ne me mets pas forcément dans les pieds des Occidentaux. J'essaie de voir, en fait, qu'il y avait plusieurs centres à ce moment-là, et il se peut que les autres centres n'avaient pas exactement le même forme d'universalisme, mais ils avaient aussi, par exemple, si on regarde la pensée politique chinoise au 15e siècle, c'est aussi un certain type de pensée large avec une certaine conception du monde. C'est pas exactement la même conception, et donc c'est moi je pense que plutôt que de penser en termes d'un Occident et puis les autres qui viendront après, je pense un peu dans la simultanéité de ces visions qui existaient au 15e siècle. Et finalement, l'Occident, au 19e siècle, a su peut-être supprimer ou écraser les points de vue des autres pendant un certain temps.
Ça veut dire pour vous quoi ? Il y a un universalisme qui serait l'universalisme occidental qui aurait gagné face à d'autres universalismes, mais existait de manière concomitante d'autres volontés aussi peut-être d'imposer un ordre, si ce n'est à l'ensemble du monde, en tout cas des régions et des impérialismes finalement. Et
je pense qu'on ne peut pas trop facilement faire l'équivalent, parce que vous savez qu'on a cet exemple qu'on connaît très bien. Il y avait une expansion maritime chinoise au début du 15e siècle. Mais ça s'est arrêté. Les Chinois n'ont pas voulu, comme les Européens, et par exemple, il y a un livre de Serge Grusinski, paru il n'y a pas si longtemps que ça, où il fait un peu le contraste entre ces différentes formes. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si les Chinois sont partis à la conquête du monde, à l'époque, au 15e siècle. Tandis que les Espagnols, les Ibériques sont partis à la conquête du monde. Donc, oui, il y a différentes sortes de pensées à grande échelle, mais on ne peut pas trop facilement faire une équivalence exacte entre ces formes de pensée.
Bertrand Maddy ?
Oui, tout à fait d'accord. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on prend en compte cette histoire quadramillénaire de l'Empire chinois et de la civilisation chinoise, celle-ci ne cherchait pas du tout à s'universaliser. C'est-à-dire, le projet n'était pas que le monde soit sinisé. Et ça, c'est une différence énorme qui demeure aujourd'hui sous des manifestations, bien sûr, très très différentes, mais qui renvoie à deux postures très différentes de la Chine et du monde occidental face à la mondialisation. La Chine cherchant à se servir dans la mondialisation, mais pas à s'universaliser dans la mondialisation, ce qui est bien différent. Et vous montrez dans votre livre, par exemple, à propos des Moghols, que leur rapport à l'extérieur n'avait rien à voir à ce qui était projeté dans les cours européennes et occidentales. Il y a donc effectivement une construction de l'altérité qui est très différente d'une histoire et d'une culture à l'autre. Mais il y a quand même un élément qu'il faut ajouter, vous le sous-entendiez dans votre intervention il y a un instant, et qui est fondamental, c'est qu'il y a eu un projet de conquête et une réalité de domination occidentale. C'est-à-dire que à partir du XVIIIe siècle, on inaugure un cycle qui n'a jamais été connu dans l'histoire de l'humanité, qui est un projet de domination sur le système international tout entier. Et d'un certain point de vue, ce projet de domination occidentale sur le système international demeure aujourd'hui. C'est-à-dire, on est toujours dans cette idée d'une gouvernance occidentale du monde.
Est-ce que, d'ailleurs, un des intérêts de l'histoire connectée que vous promouvez, Sanjay Subramaniam, ça n'est pas aussi de montrer que ces projets de domination de la part de l'Occident n'ont peut-être pas si bien fonctionné que cela, et que ce qui apparaît peut-être comme des conquêtes ou comme des victoires occidentales, lorsqu'on déplace un petit peu le regard, ce sont presque parfois des non-événements?
Je voudrais distinguer deux choses. Premièrement, il faut dire que moi, j'ai jamais tellement étudié le 19e ou le début 20e siècle. Et c'est le 19e et le début 20e siècle qu'on on a vu la domination occidentale prendre sa forme la plus extrême, je pense.
Le standard de civilisation, oui, ce qu'on appelait l'époque.
Oui, voilà. Et c'était donc à l'époque de l'Empire britannique dans sa plus grande extension. Et en gros, ce moment des empires européens en concurrence. Tandis que l'époque que moi j'étudie, et je vous l'avoue franchement, et c'est pour cela que je préfère cette époque-là, parce qu'au XVIe, XVIIe siècle, les choses ne sont pas tout à fait jouées. Il y a beaucoup plus d'équilibre culturel, il y a beaucoup plus de résistance, mais pas seulement de résistance. Il y a une espèce de variation et une espèce de pluralisme dans les cultures à l'échelle mondiale à cette époque-là. C'est pas au XVIe ou au XVIIe siècle qu'on trouve cette espèce de carte unicolore que dont rêvaient les Britanniques à l'époque de la reine Victoria.
Mais c'est un pluralisme dont les acteurs de cette époque-là ont conscience?
Oui. Oui, je pense que oui, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Les acteurs ont pleinement conscience de ça, avec des réactions très différentes. Vous savez qu'il y a un cas qui est très connu, qui est le cas japonais, car par exemple au XVIIe siècle, les Japonais ayant pris connaissance des actions des Ibériques en Amérique et aux Philippines, ont décidé qu'ils ne voulaient plus avoir ces gens sur leur terre. Et donc, ils ont fermé les portes du Japon, pas à tout le monde. Ils ont gardé les relations avec les Chinois et les Coréens, mais ils ont dit, on va avoir des Occidentaux dans des conditions extrêmement précises et sous notre contrôle. Et pourquoi? C'est parce qu'ils étaient tout à fait conscients des risques qu'on courait si on jouait autrement.
Comment ça se fait que ça n'ait pas pu perdurer de cette manière-là, Bertrand Badie, à votre avis?
Alors, je n'oserais pas rivaliser avec M. Subramanian sur l'histoire de cette période. Enfin, il me semble que l'arrivée que vous avez fort bien décrite des Portugais en Inde, c'était déjà la réalisation ou le projet de réalisation d'un universalisme qui se voulait dominateur, unificateur du monde. Et effectivement, ce que vous décrivez du Japon, c'est la crainte de ces cultures de se voir en quelque sorte balayé, bousculé, exactement comme la réaction de la dynastie Mandchou au XIXe siècle en Chine. Mais ce que je crois, puisque vous m'interrogez sur les facteurs, j'ai beaucoup aimé dans le livre de Sanjay Subramanian cette comparaison des cultures militaires. On voit très bien comment quelque chose de très grave et de très important se produit en Occident à la sortie du Moyen-Âge. C'est ce lien très intime qui se fait entre construction de l'État et construction de la guerre. C'est-à-dire que le modèle qui va se mettre en marche dès le 16e, le 17e siècle, c'est la guerre fabrique l'État et l'État fait la guerre. C'est ce que le grand historien américain Charles Tilly a appelé « war-making, state-making ». Et ça, vous dites que c'est une différence de culture. Je ne suis pas sûr que ce soit, c'est mon léger désaccord avec vous, une affaire de culture. Je crois que c'est une affaire de pratique politique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous choisissez la construction de cet État par la guerre, ça veut dire que cet État ne pourra que s'opposer aux autres États et a fortiori à ceux qui ne sont pas du club, qu'ils devront à ce moment-là écraser et dominer. Comme vous le dites sur les Mogols, c'est intéressant quand vous dites les Mogols ne cherchent pas à écraser l'ennemi. Clausewitz, lui, parlera de la nécessité d'écraser l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'État qui vient s'inscrire dans une arène internationale qui s'invente à ce moment-là et qui fait effectivement de l'usage politique de la guerre l'instrument de ce qui va devenir effectivement d'abord la construction de la carte européenne et puis la construction du monde.
Vous parlez à ce sujet, c'est un terme que vous reprenez souvent, Sanjay Subramaniam, d'incommensurabilité, notamment d'incommensurabilité culturelle.
Oui, mais en fait, je m'oppose à cette idée d'incommensurabilité culturelle. Je pense que ce qu'on voit, c'est plutôt le contraire. C'est la construction de la commensurabilité. Mais mon point de vue, qui est différent par rapport au point de vue de ce qu'on peut appeler les culturalistes pensent que la culture, c'est un invariant. Il y a des cultures qui sont comme ça, figées dans le temps, et tout le monde va garder sa culture. Moi, je pense que la culture a tendance... ça va se produire, ça va changer avec les contacts. Donc, par exemple, ce que vient de dire M. Badier, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une espèce d'interaction entre système politique et culture. Et l'un va influencer l'autre. C'est pas comme si la culture, c'est un donné, et à partir de ça, tout va suivre. On peut, en fait, voir aussi des transformations des cultures en fonction des transformations politiques ou des pratiques politiques.
Et est-ce que je vais vous ramener un petit peu en 2016, même si je sais que, voilà, quand on est historien, on est sur des périodes précises, encore que pour l'histoire connectée, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais est-ce que les différents replis qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le monde, replis identitaires, replis nationalistes, on voit bien à quel point, par exemple, les mouvements populistes, on le voit en poupe. Il y a la perspective du Brexit, par exemple, bientôt, il y a tout un tas d'autres mouvements. Est-ce que ça n'est pas la preuve que cette incommensurabilité culturelle, elle oppose quand même une très très forte résistance malgré les nombreux contacts qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le monde?
Non, je pense que c'est tout à fait le contraire, parce que vous voyez que la culture britannique d'aujourd'hui, c'est-à-dire de ces gens-là qui sont pour le Brexit, ça n'a pas grand-chose à voir avec la culture britannique des années 50 ou 60. Il y a eu une énorme évolution, et en fait, le gros problème, c'est que les Britanniques qui sont pour le Brexit imaginent qu'ils peuvent garder tous les aspects positifs, tous les privilèges qu'ils ont à l'intérieur de l'Europe, tout en faisant sortir les gens dont ils n'ont pas envie. C'est un point de vue complètement contradictoire.
Et pourtant, ce sont des combats qui se font quand même au nom de la préservation d'une identité qui serait...
Qui n'a jamais existé. D'ailleurs, quand est-ce que la Grande-Bretagne a vraiment été une espèce d'île isolée, hein? Vous savez que ça, c'est une blague. On disait toujours cette espèce de plaisanterie qu'on faisait « Fog in the Channel, continent isolated », qu'il y a des brouillards dans le et donc, c'était le continent qui était isolé par les Britanniques. Hein? Vous voyez, c'est une espèce de mythe. Mais la réalité, c'est que, on sait que depuis le Moyen-Âge, si ce n'est pas avant, alors les Normands, les Vikings, les Français, et tout le monde a eu, et alors on est avec une dynastie d'origine allemande qui est la maison de aujourd'hui régnante. Hein? Et on parle, après tout cela, de la spécificité de l'isolement britannique, qui est une espèce de rêve qui n'a jamais existé.
Ce que vous racontez paraît tellement logique qu'on a du mal aussi finalement à comprendre, Bertrand Badie, que ce ne soit pas cette logique-là qui semble dominer aujourd'hui la conception du monde et la conception des relations internationales.
Oui, moi je crois que quand on rate le passage... par l'altérité, on crée de la fièvre identitaire. Il y a un lien mécanique entre les deux. Mais alors, cette fièvre identitaire, elle est projetée sur l'autre, qui se sent humilié, méprisé, marginalisé, mais elle pousse également chez vous, parce que, effectivement, le refus de l'altérité, quelque part, est là pour entretenir l'idée que nous sommes la civilisation et que cette civilisation est menacée par l'altérité. En gros, au lieu de faire de l'altérité un instrument banal de relations internationales, on en fait au contraire un instrument de fermeture. Et tout ceci se repère très aisément dans le temps. Il y a eu le fait colonial qui a effectivement été le premier coup porté à l'altérité. Il y a, comme vous le montrez très bien dans votre livre, ce monde que l'on n'a pas pu dominer colonialement, mais que l'on a quand même tenu dans les marges de la vie internationale, et c'est le cas de la Chine, ce qui crée un autre problème de négation de l'altérité. Après, il y a une décolonisation qui a échoué, et dont nous sommes en quelque sorte les héritiers malheureux. Et enfin, maintenant, il y a ce projet persistant de gouvernance du monde à partir d'un centre, alors que la mondialisation ne peut pas avoir de centre. Et donc, cette volonté de gouverner la mondialité à partir d'un centre nie l'altérité et crée l'identité, ce qui est le poison actuel des relations internationales.
Voilà. Et moi, en fait, je suis, j'irai un peu plus loin, même pour dire que le Brexit, ça, c'est absolument lié avec ce problème de décolonisation chez les Britanniques. En fait, on ne parle pas d'un lien entre les deux, mais dans la mentalité des gens qui sont pour le Brexit, ils pensent toujours en termes de la décolonisation ratée.
Sur cette question de l'altérité, de l'accueil peut-être de cette altérité, qui ou quelle institution, quel organisme est en mesure, selon vous, de l'accueillir? J'ai lu dans une interview que vous avez donnée récemment, Sanjay Subramaniam, je crois que c'est au magazine Les Inrecuptibles, j'en suis pas tout à fait sûr, mais enfin bon. En gros, vous disiez, voilà, il faut inventer des institutions pour permettre des conversations avant que cela débouche sur la violence. Ces institutions, elles ne sont pas censées exister aujourd'hui. Je pense aux Nations Unies, c'est quand même ça le réceptacle normalement de l'altérité.
Que dire des Nations Unies? C'est quand même une très très grande déception, il faut le dire. C'est une institution à la fois manipulée cyniquement par des gens vous voyez, dans le cas israélo-palestinien, ça se voit assez clairement. Mais pour moi, en fait, quand je parle d'institution, je pense à un niveau beaucoup plus modeste. Je pense, par exemple, à des gens travaillant entre les sociétés. Au niveau, disons, de la société civile, qui ont donc leur propre réseau, qui ont d'autres types de conversations. Parce que je pense que, bien sûr, les États ont leur rôle à jouer et les super-États, hein, les institutions qui sont à un niveau encore plus haut que les États. Mais pour moi, en fait, l'intéressant, ça serait de voir, si vous voulez, plus bas, à un niveau d'échange. C'est pas pour faire l'éloge de tous les ONG du monde, parce que manifestement, il y a aussi beaucoup de cynisme dans le monde des ONG, mais je pense que c'est plutôt à ce niveau-là.
Je vous soupçonne de dire ça pour faire aussi plaisir à Bertrand Badie, parce que, alors, justement, sur la question des sociétés, ça, c'est justement au cœur de votre réflexion, pas seulement dans ce dernier ouvrage. Vous dites même, enfin, vous le dites pas de cette manière-là, mais je vais résumer un petit peu, mais qu'effectivement, finalement, si on veut comprendre le monde tel qu'il existe aujourd'hui, il faut davantage regarder les sociétés que, en gros, ceux qui les dirigent, donc que les États.
La mondialisation a transformé l'international en intersocial. C'est-à-dire, regarder les grands enjeux du monde actuellement, ce ne sont plus des enjeux stratégiques. Et quand ceci existe, ce sont souvent des trompe-l'œil. Les vrais enjeux, c'est l'insécurité alimentaire, 6 millions de morts par an défaut d'alimentation. C'est l'insécurité sanitaire, c'est l'insécurité environnementale. C'est-à-dire, toutes ces connexions, reprenons alors là le terme qui devient très riche, toutes ces connexions ratées entre les sociétés. Il faut quand même pas oublier une chose, c'est que la mondialisation crée ce monde unique et, en vieux durkheimien que je suis, je considère qu'un monde unique sans lien social, il ne marche pas. C'est-à-dire qu'à mesure que l'on construit cette mondialisation, il faudrait se souvenir de la manière dont nous avons construit nos nations en Europe au XIXe siècle. C'est-à-dire où on a vite compris que les nations ne dureraient que s'il y a du lien social qui se fait, de la protection sociale, de l'association, du débat, de l'échange, etc. Et c'est ceci qui manque totalement dans le jeu international actuel.
Mais est-ce que vous diriez, Bertrand Badie, qu'on est dans un monde avec des sociétés connectées et, disons, des diplomaties qui seraient, elles, déconnectées?
Oui, mais hélas, c'est plus compliqué que ça, parce que pourquoi les sociétés sont connectées? C'est parce qu'avec la révolution des communications, aujourd'hui, tout le monde voit tout le monde connaît tout le monde, et tout le monde se définit par rapport à tout le monde. Le pauvre, le miséreux, autrefois, il ne connaissait pas l'existence même du riche. Maintenant, il le connaît. Et cette connexion par la communication, par la visibilité de l'autre, n'étant pas elle-même corrigée par du lien social, crée plus de conflits et de violences qu'elle ne crée de solidarité, d'amitié et de paix. Et c'est probablement là, nous sommes au cœur du problème, c'est-à-dire que si ces automatismes de la communication dans le monde aujourd'hui ne sont pas accompagnés de la mise en place de vrais liens sociaux et de vraies capacités d'échange et de solidarité, hein, le terme est durkheimien aussi, eh bien, effectivement, la proximité, pour reprendre la question du début, la proximité va créer de la violence.
La révolution des technologies de la communication, Sanjay Subramaniam, a vraiment totalement modifié la façon dont les sociétés communiquent entre elles?
Non, je pense que ce n'est pas totalement. Je pense qu'il y a toujours des formes qui restent. Il y a toujours des institutions qui restent. Bien sûr, il faut mesurer le changement aussi contre ce qui n'a pas radicalement changé. Et d'ailleurs, pour revenir à votre autre question, comme il s'avère que je fréquente pas mal les diplomates, je pense qu'il faut dire qu'aussi, moi je dirais que les plus intelligents parmi les diplomates, ils ne sont pas tous des gens stupides, il faut quand même dire que les plus intelligents parmi eux ont compris que la diplomatie telle qu'on le faisait il y a 30 ou 40 ans, ça ne marche plus. Et donc, en fait, il y a autre chose qu'il faut faire avec la diplomatie. Par exemple, les gens qui sont formés aujourd'hui, que je connais un peu en diplomatie, par exemple en Inde, les plus intelligents, ils sont beaucoup plus intéressés par les questions de culture, de médias, d'économie et cette autre vision qu'on avait que la diplomatie, c'était l'analyse du système politique de l'autre. On voit que c'est un peu dépassé, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de résistance si on propose ça comme une vision, une espèce de révolution dans la formation des diplomates.
Est-ce que ces diplomates intelligents indiens que vous connaissez, Sanjay Subramaniam, ils ont une vision plus connectée, alors disons justement, et plus globale du monde qui les entoure, ou bien est-ce que finalement ils ont les mêmes défauts que nos diplomaties occidentales, c'est-à-dire de regarder de leur point de vue, qui est le point de vue indien, et de ce point de vue-là, on regarde un petit peu le monde, mais en gros, le centre du monde, c'est l'Inde pour eux.
Non, je ne veux pas idéaliser ces gens non plus, mais pour revenir aussi au livre de Bertrand Bardier, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire, si on est indien et on est diplomate, on part d'une situation où on est en quelque sorte désavantagé. Parce que le système tel que ça a été formé, c'est pas fait pour vous, essentiellement. C'est fait pour les autres. C'est fait pour les Américains, les Européens, etc. Donc, en fait, on a besoin d'être en quelque sorte plus fort que les autres pour arriver à égalité.
On peut jouer aussi d'une forme de victimisation aussi par rapport à cette histoire, et non?
Oui, c'est-à-dire il y a des gens qui on peut aussi tomber dans cette espèce de piège qui serait victimisation, ressentiment, etc. Mais je pense par exemple à des gens qui ont reconnu, par exemple, que Prenons les Nations Unies. Alors, il y a le Conseil de sécurité. Tout le monde sait que c'est une espèce d'institution néocoloniale. Et donc, si on a besoin de jouer avec ce genre de système, il faut savoir faire. Et donc, je pense que c'est le fait d'être placé dans cette situation désavantageuse qui leur donne un peu plus envie d'être inventif.
Oui, pour aller dans le même sens, deux grands secrétaires généraux des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, qui dans son agenda pour la paix en 1992 a été le premier à dire « Attention, les guerres aujourd'hui ne sont pas seulement le résultat des compétitions de puissance, mais sont les faits de l'injustice sociale dans le monde ». Ça, c'est quand même quelque chose de très fort dans la construction de ces relations intersociales. Son successeur, Kofi Annan, a expliqué que le multilatéralisme ne pourrait survivre que s'il devient social, c'est-à-dire s'il intègre les acteurs sociaux, ce qui est un pas considérable. C'est les États qui ont freiné, c'est pas les Nations Unies, c'est les États qui ont dit non, nous engageons pas dans ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est la diplomatie des puissances émergentes, était question de l'Inde, on pourrait rajouter le Brésil, qui est sur des positions extrêmement voisines, même la Chine d'un certain point de vue. Et je rejoins tout à fait ce que disait Sanjay Subramanian tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est quand même des diplomaties qui doivent gérer leur exclusion. Un Singapourien, diplomate singapourien très connu, Mabobani, avait écrit un livre qui s'appelait « The West and the Rest ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire, quelque part.
Ça veut dire l'Ouest, enfin, l'Occident et le reste du monde.
Et voilà. Et ceci engage ces puissances émergentes qui baignent dans la mondialisation à produire un discours diplomatique néo-souverainiste très, très rigoureux, anti-interventionniste, protecteur des droits et des souverainetés des États. Et là, nous sommes dans une sorte de hiatus qui vient bloquer le système international. C'est-à-dire, il faut en même temps gérer une mondialisation à laquelle on adhère et résister à cette espèce de confiscation oligarchique, il faut bien le dire, dont le G7 est la parfaite expression, ou le P5 au Conseil de sécurité, du système international. Ça, cette tension, elle est très douloureuse, parce que d'abord, elle nous prive du partenariat des puissances émergentes, l'Inde, le Brésil, la Chine, qui se cachent derrière des réflexes très souverainistes, et d'autre part, parce que elle retarde la seule vraie réflexion qui soit intéressante en relations internationales, c'est-à-dire celle sur la sécurité humaine.
Ça pourrait être quoi une diplomatie du coup qui serait idéale, Sanjay Subramanian, mais je vous poserai également la même question à vous, Bertrand Badi, c'est-à-dire est-ce que ça pourrait être une diplomatie qui s'inspirerait justement de ce qu'est aujourd'hui l'histoire connectée, dont il faut dire d'ailleurs que c'est un courant encore assez largement minoritaire chez les historiens, mais qui est aussi une façon aussi de décaler le regard et d'essayer de faire une histoire à parts égales, comme pour reprendre le titre d'un autre historien qui s'appelle Romain Bertrand. Mais est-ce que ce serait ça, c'est-à-dire une diplomatie qui essaie d'appliquer finalement la méthodologie qui est la vôtre du point de vue de l'histoire?
L'histoire à parts égales, ça n'a rien à voir avec cette question-là. C'est une espèce de politiquement correct. C'est tout. Bon. Franchement, pour moi, en fait, l'histoire, c'est jamais.
Vous n'avez pas aimé le livre de Romain Bertrand?
Non, c'est une question de reconnaître que l'histoire, c'est pas fait à parts égales, tout d'abord. Donc, au niveau de politique internationale aussi, il faut quand même reconnaître que tous les acteurs ne sont pas dans la même situation avec le même poids. Mais en fait, le problème, si j'ai bien compris aussi le livre de Bertrand Badier, c'est un peu aussi que cet ordre international, entre guillemets, c'est un ordre qui est victime d'une espèce de sclérose qui reflète les habitudes de notre époque et qui n'a pas su changer selon les changements du monde actuel parce que les gens qui étaient les pouvoirs de l'entre-deux-guerres ont toujours envie de rester les pouvoirs quand en fait le monde a changé depuis 70 ans. Voilà le problème. Et donc pour moi bien sûr l'histoire connectée c'est pas quelque chose que finalement un diplomate peut pratiquer parce que un diplomate par définition presque, doit jouer l'international. C'est son affaire. On n'est pas diplomate, on ne représente pas un pays si on n'a pas envie de, en quelque sorte, jouer... Il est vrai qu'on peut raisonner d'une façon sophistiquée en disant que l'intérêt national, ça passe par la coopération et c'est pas une espèce de jeu zero-sum game, comme on dit, que moi j'ai plus, donc vous avez moins. Et on peut gérer les choses d'une façon telle.
En même temps, vous êtes d'accord pour dire quand même que l'entrée nationale, ça reste aujourd'hui encore l'entrée dominante, y compris chez les historiens.
Oui. Oui, non, mais je pense que les historiens et les diplomates font pas le même genre de jeu. Eux, ils sont d'ailleurs l'objet de notre regard, et nous, ce qu'on fait, ça les intéresse pas tellement, il faut le dire.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que finalement, peut-être s'il y avait davantage d'écoute des historiens connectés, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, ou en tout cas si vous étiez plus nombreux, peut-être que ça aspirerait un petit peu plus les diplomates, Bertrand Badi, même si effectivement, comme le disait Sanjay Subramanian, l'entrée, elle est aujourd'hui nationale, puisque malgré tout, les États-nations, c'est la forme dominante qui est aujourd'hui.
Oui, je crois qu'on a besoin de tout le monde, hein, des historiens, des sociologues, des économistes, des anthropologues, des philosophes, pour réaliser, je dirais, la grande inversion qui est devenue nécessaire. Pourquoi ? La mondialisation a inventé le plus grand système social de toute l'histoire de l'humanité. C'est un système social qui, de facto, englobe tout le monde, pour le meilleur ou le pire, d'ailleurs, désenglobé. Nous sommes bien d'accord. Or, ce système social, qui a maintenant une réalité, c'est pas une abstraction, ce système mondial, est le système le plus inégalitaire que la planète ait connu de toute son histoire. Entre le revenu moyen d'un Norvégien et le revenu moyen d'un Malawite, entre la sécurité alimentaire au nord et l'insécurité alimentaire au sud, etc., etc., ce poids des inégalités est insupportable pour un système. Et donc le système menace de s'écrouler parce qu'il y a trop de neige sur le toit, parce que les inégalités sont trop fortes. Et donc, je reprends la balle au bon de tout à l'heure, c'est-à-dire, et donc maintenant l'égoïsme national passe par la découverte de cette assurance collective à laquelle nous devons tous souscrire.
C'est-à-dire qu'on renonce pas forcément à l'égoïsme national, mais il ne faut pas qu'il soit exclusif.
Rien n'est pire que de considérer que la solidarité est quelque chose de moral. La solidarité, c'est quelque chose d'utilitaire, de pratique, parce que ça empêche les horreurs que nous vivons depuis un certain temps. Quand vous savez que au Niger, 70% de la population a moins de 30 ans, posez-vous la question de ce que va faire un jeune qui aujourd'hui à Niamey ou à Zinder a 15 ans ou 16 ans. Eh bien, il ne pourra rien faire sauf être migrant ou être enfant soldat. Vous voyez la perspective ? Donc ça implique une réflexion collective où tout le monde est gagnant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lâche un peu de ce que nous avons accumulé, nous pouvons assurer plus de paix. C'est ce qu'a fait le chancelier Bismarck, cet homme très révolutionnaire et très gauchiste, à la fin du 19e siècle en Allemagne, en inventant les politiques sociales. C'est ça qu'il faut faire au niveau mondial.
Et on est presque au terme de cette émission. Je voudrais terminer par ce qui est une manie de certains historiens et de très nombreux journalistes, qui est de commémorer des dates anniversaires qui n'ont pas forcément un grand intérêt. Mais on va le faire quand même, parce que je trouve cet exemple intéressant, avec quelques jours d'avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Paris le 20 juin 2006. Voilà de quoi vous rafraîchir un petit peu la mémoire.
10 ans de travaux pour le musée du Quai Branly, 10 ans pour faire battre en plein Paris le cœur des civilisations oubliées, parfois méprisées, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. Jacques Chirac apprécie en connaisseur. C'est pour lui l'aboutissement d'une passion qu'il cultive depuis toujours et d'une conviction aussi. Il n'existe pas plus de hiérarchie des cultures que de hiérarchie des peuples. Dans la pénombre, les trésors des 4 continents, masques et fétiches d'Afrique, statues en granit de Polynésie, chefs inuits, parures indiennes, étoffes mongoles. Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix, explique la culture guatémaltèque. Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, celle du Canada.
Bon, j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire réagir, Sanjay Subramania, mais donc 10e anniversaire de ce musée du Quai Branly, musée des arts premiers, qui va bientôt s'appeler Jacques Chirac.
Oui.
Est-ce que c'est un lieu de rencontre qui peut être intéressant pour vous, justement, pour diminuer la conflictualité? Est-ce que ça en fait partie de ces lieux qu'on évoquait tout à l'heure?
Oui, je pense que c'était un endroit intéressant. Ça reste un endroit intéressant. Il y a des aspects controversés. Je pense que on peut poser des questions, par exemple, sur la définition et sur ce qui est inclus et sur ce qui est exclu. Je pense qu'il y a encore des questions à poser, mais moi j'ai toujours trouvé que le musée de Quai Branly était un endroit très intéressant pour faire des conférences pour mener des séminaires. J'ai fait ça dans le temps avec d'autres collègues et je trouve que c'est un endroit assez extraordinaire.
Bertrand Badie, en 10 secondes.
Oui, moi je crois que l'intelligence de l'art africain, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour entrer dans l'intelligence du monde tel qu'il est. Non, ce que j'aimerais, c'est que l'art africain soit enseigné dans les écoles. L'exposition est en plus labellisée art premier, je ne suis pas sûr que ça rende clair le message que cet art apporte au monde.
Eh bien, merci infiniment à tous les deux. Sanjay Subramaniam, je rappelle, L'éléphant, le canon et le pinceau, c'est aux éditions Alma. Nous ne sommes plus seuls au monde. Bertrand Badis est publié à La Découverte. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Tanguy Omri. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis. Avec à la prise de son ce soir Jean-Frédéric, brillamment secondé, par Bradley Lebouille. Pardon, je me suis trompé dans son nom, il se prend la tête, le pauvre. Demain, émission présentée par Mélanie Chalandon. Antibiotiques, est-ce que c'est le début de la fin? Ce sera la question à partir de 18h20. Tout de suite, c'est ping-pong. Mathilde et Martin, bonsoir à tous les deux.